RTL Équipe avec Frédéric Schwecker. Carrément Basket fait le bilan.
Bonjour à tous, bonne fête de fin d'année, c'est l'heure du bilan de l'année basket version 2010. On va revenir durant une heure sur notamment le titre de champion NBA obtenu par les Lakers de Los Angeles, c'était en juin dernier. Nous ferons également un retour sur les deux mondiaux de basket, celui masculin qui s'était déroulé en Turquie où la France avait été éliminée en quart de finale, pareil pour l'équipe féminine de l'équipe de France qui elle avait été éliminée en quart de finale de son mondial en République tchèque. Nous reviendrons également sur la victoire de Barcelone à Paris au Final Four de l'Euroleague, ainsi que Cholet qui est devenu champion de France cette année.
Sur RTL Équipe, Carrément Basket, le bilan de l'année.
Et ils nous font le plaisir d'être avec nous durant cette période de fête de fin d'année. Ils prennent une petite heure avec nous pour faire le bilan de l'année basket. Notre consultant qui nous a rejoint cette année, c'était l'événement sur l'antenne d'RTL, l'équipe. Il nous a rejoint Georges Eddy, la voix du basket sur Canal+. Salut Georges.
Bonjour.
Vous êtes prêt pour faire le bilan?
Oui.
Un bilan riche hein, cette année.
Et j'ai couvert la plupart de ces événements en direct, donc ça tombe bien.
Vous serez bien évidemment l'un de nos grands témoins et notre consultant donc, pour cette année 2010-2011. Le représentant de Mondial Basket, c'est Armel Lebescon qui fête ses 20 ans cette année. Enfin, pas vous Armel, le magazine.
J'aimerais bien.
Magazine. Bonjour Armel.
Bonjour à tous.
Et le représentant du quotidien, l'équipe, qui est venue tant de fois chez nous ou alors que nous avons pu suivre en déplacement un petit peu partout en Europe, notamment pour l'Euroleague, c'est Arnaud Lecomte. Salut Arnaud.
Bonjour, bonjour.
Messieurs, on va commencer avec la NBA. Le mois de juin dernier, rappelez-vous, les Lakers de Los Angeles réussissaient le back-to-back face au Boston Celtics, une victoire en finale 4-3. Messieurs, j'ai commencé avec vous, Georges. Est-ce qu'on a vécu la plus belle finale NBA ?
De tous les temps ? Oh non, je ne crois pas. Mais ça peut faire partie d'une jolie regroupement des plus belles finales. D'ailleurs, j'ai eu la chance depuis 1991 à les couvrir tous en direct sur place aux États-Unis. Donc j'ai vu un bon échantillon. Bon là ça va jusqu'au 7e match. Il faut dire le 7e match c'était quand même passionnant parce que c'était serré, le suspense et tout ça.
83-79 hein, le
beaucoup de maladresse aussi, beaucoup de grosses défenses, beaucoup de maladresse et donc bon, on peut pas dire que c'était la plus belle finale de tous les temps, mais quand Los Angeles rencontre Boston, c'est la grande tradition, ça attire les médias, ça attire les fans, même non aficionados. Donc de ce point de vue-là, c'était quand même un événement exceptionnel.
Armel, c'est vrai que cette finale rentre dans la lignée des duels en finale entre les Lakers et Boston. On rappelle, hein, les Lakers qui avaient terminé premier de la conférence Ouest, Boston qui a terminé quatrième de la conférence Est et qu'on annonçait vieillissant, qui était bien loin de faire les faveurs des pronostics. On aura quand même assisté à un affrontement, un duel qui nous aura tenu en haleine durant sept matchs.
Magnifique. Moi, personnellement, j'ai adoré cette finale. On avait un petit peu ce que de la finale entre les Pistons et les Spurs de 2005 également, en termes d'indécision. Je suis assez d'accord avec ce que tu disais. Il n'y avait pas toujours l'intensité voulue sur chacun des matchs. Notamment le match 6, par exemple, avait été particulièrement...
Moi, je dirais plutôt un manque d'adresse que manque d'intensité. Il y avait justement trop d'intensité, des fois.
Oui.
trop de mauvais
mais il n'y avait pas, je veux dire, c'était pas non plus le summum des finales. Maintenant, sur le dernier match, ça se joue à 30 secondes de la fin, sur peu de choses. On est sur un Game 7, donc on est allé au bout du bout, quoi, voilà.
Et c'est vrai que cette équipe de Boston, qu'on annonce encore une fois vieillissante, avec Garnett, notamment Kevin Garnett, qui jouait quasiment sur une jambe, Paul Pierce, Ray Allen, aura tenu à dragée. Tu as des équipes comme Miami, comme Cleveland, en demi-finale de conférence. Cleveland que tout le monde annonçait au moins en finale, voire champion NBA. Et ensuite Orlando, cette équipe n'aura pas cessé de nous surprendre durant tous ces playoffs. Hein.
Oui. Orlando, Cleveland, c'est plutôt ces équipes-là qu'on attendait en finale cette année. Bon, même si Boston restait un prétendant évidemment très légitime, bon, malgré tout, on pensait que Boston allait peut-être basculer de l'autre côté de la colline, comme on dit, avec des joueurs qui prennent un an de plus, comme dirait M. Lapalisse, tous les ans. Mais là, en l'occurrence, on pensait que la date de péremption était atteinte. Mais non, la vraie surprise en effet de cette finale, je crois, c'est de voir Boston à ce niveau-là jusqu'au match 7, alors qu'on attendait Cleveland, surtout Cleveland, je veux dire, qui a été quand même le flop de ces playoffs. Orlando aussi, parce qu'on sentait quand même Orlando monter en régime. Ils avaient été finalistes, rappelons-le, la saison précédente. Donc on pouvait penser qu'Orlando aurait une deuxième chance. Et puis, bien non, c'est Boston qui a surpris tout le monde. Donc Boston ne meurt jamais. Boston est un véritable pilier, mur porteur, on va dire, de la NBA depuis toujours, quasiment. Et cette année a été encore fidèle à sa légende. Et je pense, franchement, que Boston n'a pas fini de nous surprendre. On voit encore en ce début de saison que Boston a fait un bon début de saison, on va dire. Et sans préjuger de ce qui peut se passer sur la suite de la saison, les difficultés de Miami en tout début de notamment au mois de novembre, ont été mettre en avant encore cette équipe de Boston qui pourquoi pas, peut encore, pourquoi pas, jouer une finale de conf, une finale tout court d'ailleurs cette année.
George.
Alors, ce qui compense le vieillissement de l'effectif à Boston, c'est l'émergence de Rajon Rondo comme un des meilleurs meneurs au monde.
Même et du bon. Hein.
Et il y avait d'autres jeunes comme Big Baby Davis aussi qui apportaient plus. Mais et Perkins, en tant que pivot costaud.
Pour revenir sur le scénario de cette finale, on rappelle le match 1, victoire sans conteste des Lakers de Los Angeles qui devaient avoir en tête le dernier match de la finale 2008 où ils avaient été littéralement humiliés par les Celtics, ce fameux match 6 où je crois qu'ils s'étaient pris 30 points à la vue dans le dernier match de la finale, même
40
plus.
40 même, je crois. Ouais.
Pas loin des 40 points. Le deuxième match, les 3 points de Ray Allen, 8 sur 11 pour l'arrière des Celtics de Boston pour mettre les deux équipes à égalité. Le match 3, Derek Fisher, le héros de cette rencontre avec 16 points qui avait un peu éclipsé le réveil d'un certain Kevin Garnett très critiqué au début de cette finale. Le match 4, on en parlait, c'est le banc de Boston qui avait fait la différence avec Nate Robinson et Glenn Davis qui avait été tous les deux auteurs ensemble de 30 points. Le match 5, c'est la défense de Boston qui avait fait la différence avec les Lakers à moins de 40%. Le match 6, on le disait, le blowout. Et enfin, ce match 7 avec les Lakers qui ont été plus forts sur la fin de match. On aura à chaque fois un scénario différent.
Ouais, mais tout se passe sur le match 6 avec la blessure de Perkins. Si Perkins est là pour le match 7... On ne va pas aller présager de ce qui allait se passer, mais effectivement, ce n'est plus du tout le même scénario. Ça n'a plus rien à voir. Donc Doc Rivers, qu'est-ce qu'il a dit à la fin de ce match? Comme il l'a dit en tout début de saison, cette année, il a dit effectivement le 5 des Lakers n'a toujours pas battu le 5 des Celtics. Il a tout à fait raison, puisque effectivement, vous jouez sans votre pivot dominant, qui était celui qui prenait le plus de rebonds. Et ils en avaient besoin sur ce match 7 pour leur donner des munitions derrière. On a vu, ils ont été complètement mangés à l'intérieur par la dynamique des Lakers avec Pau Gasol et Bynum et Lamar Odom qui venait en soutien. Donc ça a été difficile après pour Boston de récupérer des ballons. Je vous rappelle, dans ce scénario, vous le disiez avec Ray Allen qui a du mal à se trouver en position de tir. Et ce n'est que 40 secondes de la fin qu'il commence à rentrer ses shoots, mais c'est trop tard, quoi, vous voyez.
Oui, effectivement, difficile. Il a eu une saison une finale en demi-teinte, Ray Allen. Avec ce match 2.
Sur ce match 7. Oui. C'est ce match 7 pour lui difficile.
Oui, au contraire de cette finale entre les Pistons et les Spurs, qui était allé en 7 matchs aussi.
Là, très intense aussi.
Voilà,
très intense.
Mais les 4 premiers matchs, c'était à sens unique. Et en fait, ça s'est joué sur les 3 derniers matchs où c'est devenu intéressant. Là, par contre, dans cette finale, chaque match avait un scénario différent, un scénario intéressant, comme vous avez dit, le match 4 où c'est le banc, c'est totalement inattendu de Boston qui fait la différence avec une euphorie extraordinaire. Bon, avant, il y avait le record de Ray Allen à 3 points. Il y a eu plein de choses, il y avait Fisher. Dans chaque match, il y avait un truc à retenir. C'est pour ça que j'étais un peu déçu par la maladresse et le côté hargneux du match 7. Mais dans le match 7, il y a l'émergence de Ron Artest. Et j'ai vu récemment que Ian Thompson, grand spécialiste NBA sur Sports Illustrated, je vous invite à aller lire ses papiers très intelligents. C'est un ancien bonhomme du Herald Tribune à Paris, un intello du journalisme sportif. Lui, il a choisi Ron Artest comme sportsman de l'année Bon, finalement, ça va être Drew Brees, le quarterback de la Nouvelle-Orléans, vainqueur du Super Bowl. Ouais. C'est très mérité. Mais c'est fort, parce que Ron Artest a mis le 3 points dans le match 7 le plus important. Et il est devenu un autre homme, un autre joueur, avec de l'aide d'un psychiatre, de Phil Jackson, un grand psychologue. Alors, tout ça a fait que Ron Artest, finalement, a été quasiment décisif aussi dans la finale.
Arnaud, un mot quand même sur le MVP de cette finale, un certain Kobe Bryant qui remporte là son 5e titre individuel de champion NBA. Lui aussi, on parlait de la mutation de Ron Artest, lui aussi il a changé quand même Kobe Bryant, on l'a vu sur ses deux dernières finales, bon quoi il faut prendre les choses en main, il est là, il prend les shoots etc. Mais il n'hésite plus maintenant à mettre ses coéquipiers également en avant.
Oui, c'est le Kobe mûr, le Kobe accompli en tant que joueur de basket et sûrement en tant que personnalité, en tant qu'être humain tout simplement, passé la trentaine, il n'y a pas de secret, il y en a beaucoup qui ont à prendre de la graine de l'évolution de Kobe, à commencer par LeBron James, dont on reparlera, j'imagine.
Mais il n'a pas 30 ans encore jeune.
Oui, qui doit prendre de la graine, donc ouais, voilà, donc qui va lui aussi arriver à
une... Ou ça viendra pas.
Oui, voilà.
Ou pas, ouais, c'est ouais. Ça. Mais il arrivera peut-être donc à une forme de maturité, mais Kobe lui l'a atteinte, alors que on l'aurait pas forcément parié, rappelez-vous à l'époque de ses caprices, à l'époque de ses crises d'ego
avec le Shaq
au tout début des années 2000 lors de la première du premier tripit des Lakers, en attendant un prochain peut-être, mais ce qui est sûr c'est que Kobe a effectivement totalement transformé son approche du jeu, son approche de ses coéquipiers. Avec Pau Gasol, il y a eu des moments difficiles. Rappelez-vous les nombreuses reproches qu'il a pu lui faire sur son manque de dureté, sur son manque d'intensité. C'est des choses qu'on n'aurait jamais entendues de la part de Kobe il y a 10 ans également. Ça, hein. Donc je pense qu'effectivement, c'est un élément fondamental au-delà du talent individuel que Phil Jackson arrive à mettre en musique dans cette franchise, dans cette équipe. Je crois qu'en effet, le point central, c'est la manière dont Kobe a su approcher les choses ces dernières années. Trois finales de suite, rappelons-le, une défaite contre Boston la première année et derrière deux titres à la file, même si ça n'a pas été aussi simple que ça. Malgré tout, je pense que Kobe, en effet, a été fondamental.
Et Garzon a ajouté 8 kilos de muscles après la défaite en finale contre Boston.
Ouais, il a écouté
Kobe et Phil Jackson.
Georges, pour conclure sur cette finale des Lakers, on a un mot de Phil Jackson également. 11e titre pour lui.
Oui, disons qu'après la finale, la grande information, c'est le retour de Phil Jackson qui était prêt de prendre sa retraite et aussi de Doc Rivers qui allait prendre une année sabbatique pour s'occuper de sa famille. Donc, ces deux-là sont de retour. On peut très bien se diriger vers une nouvelle finale entre Boston et LA. Et à mon avis, ça risque d'être quelque chose de grandiose.
Armel, un mot sur nos Français de l'année, notamment deux qui se sont fait remarquer, en tout cas, durant cette année. Tony Parker, qui aura vécu une année
difficile.
Cauchemardesque, c'est le moins qu'on puisse dire, avec
Tipeee,
les blessures.
Ouais.
Et un joueur qui s'est totalement révélé, gêné également par les blessures dans son élan, c'est Joakim Noah, qui avait fait un énorme début de saison avant cette blessure à la
boucle
plantaire.
Si Noah avait eu une année pleine, il était sur le podium des rebondeurs, hein. Ça sans problème. Donc une vraie révélation. Lui aussi, il a fait un peu le vide autour de lui dans la raquette des Bulls depuis ses débuts en l'espace de 3 ans. Il faut rappeler qu'il avait quand même Ben Wallace quand il est arrivé. Au bout de 2 mois,
Van
déjà,
aussi,
il lui avait fait comprendre qu'il voulait marquer son territoire. Et il a continué. Dans son esprit, alors il n'a toujours pas le shoot, quoi qu'on en dise, ce n'est pas une force offensive, c'est une force au rebond. C'est un vrai rebondeur, il est capable de défendre, on a beaucoup d'énergie. C'est un garçon qui bosse, ce n'est pas le talent naturel évidemment chez ce joueur, mais c'est un gros bosseur, donc c'est vrai, une vraie révélation. C'est bien de le mettre dans le camp des Français parce qu'on l'avait un peu oublié aussi pour d'autres raisons. Nicolas Batum a eu une saison en pointillé, on a senti par moments que ça arrivait, il est resté sur son rôle défensif, ça change pour cette saison, mais il était resté dans un rôle défensif avec Portland qui avait été quand même la grosse déception de la saison avec toutes les blessures qu'il y a eu dans cette franchise. Mais autrement, au niveau des Français,
on a quand même envie
c'est
de,
difficile
d'aller
en chercher d'autres.
De Rodrigue Beaubois.
Rodrigue Beaubois, qui a quand même été
un rookie.
Oui.
Rookie, 40 points une fois. Voilà. Oui, 40 points une fois, voilà. On peut citer quand même un paquet de rookies qui marquent 40 points. 30 points.
Pas,
voilà. 30 points et après on va voir. Voilà. Moi j'attends de Rodrigue Beaubois ce que ça donne sur cette saison. On verra bien.
Il ne s'agit pas effectivement de.
Sachant que le début de saison était gâché par la blessure.
Il joue toujours pas. Il ne
s'agit pas d'aller plus vite que la musique. Personne ne fait de Rodrigue Beaubois encore aujourd'hui un futur All-Star. Il ne faut pas aller plus vite que ça.
J'espère.
Mais dans le paysage un peu grisâtre des joueurs français la saison dernière en NBA, bon, ben voilà, c'était un vrai rayon de soleil parce que qui aurait misé Armel sur la possibilité de voir Rodrigue Beaubois mettre 40 points sur un match dans son année rookie. Je veux dire, bon,
c'est. Et dans une franchise où c'est pas facile de se placer en plus.
Effectivement, donc on a vu qu'il avait déjà la confiance un petit peu de tout le monde, à commencer par Nowitzki, par Jason Kidd. Bon, c'est pas rien d'avoir la confiance de ces monstres sacrés-là. Donc on sent quand même que ces gens-là, qui ont une expertise, forcément, ont compris que ce joueur-là allait être prochainement peut-être la deuxième ou la troisième arme offensive d'une équipe comme Dallas, qui est une équipe de play-off installée, quoi, et qui peut, pourquoi pas, rêver d'une finale à l'Ouest, en tout cas au minimum, cette année ou les années à venir. Donc je pense que Beaubois est une vraie révélation dans ce contexte-là, et que bon, malgré tout, même si en effet il a été stoppé par les blessures ces derniers mois, on peut espérer, par une blessure ces derniers mois, on peut espérer quand même le voir surgir dans le courant de la saison et confirmer ce qu'il avait montré l'an dernier.
Georges, concernant nos Français ?
Oui, en tout cas, Mark Cuban, Rick Carlisle et Dirk Nowitzki ont annoncé qu'ils attendent fermement le retour de Rudy Beaubois pour savoir ce que l'équipe de Dallas peut donner cette saison. Et déjà, en ce moment, Dallas est fort. Donc, par rapport à Noah, je ne sais pas si vous avez vu le sujet qu'on a diffusé dans Canal NBA par rapport à Noah avec une longue interview.
On rappelle à Canal NBA tous les lundis soirs. Hein.
Voilà, et d'ailleurs, sur les premières semaines, chaque semaine, l'audience est en augmentation. C'est un
bonne
bon
nouvelle.
Signe pour la télé. Mais bon, Noah a expliqué en français, parce qu'il ne faut pas oublier, il aurait pu jouer avec Team USA cet été. On voulait le recruter parce qu'il a aussi la nationalité américaine. Mm-hmm. Bon, il va jouer avec l'équipe de France, tant mieux. Et il a expliqué dans ce reportage en français qu'il a fait le tri dans sa vie. On parlait de la maturité de Kobe, de LeBron James. Et c'est la clé du succès de Joakim Noah. Parce qu'après avoir été la star à l'université, deux fois champion, il a fallu...
Il a dit que c'est différent. Défendre sur Shaquille O'Neal, c'est différent que défendre sur les
Mastodons. Oui, il a dit ça. Il a dit exactement ça. Et tout est différent. C'est-à-dire qu'au lieu d'être encadré, vous avez beaucoup de liberté. Il faut savoir gérer ce temps libre. Alors lui, après, il a compris. Il s'est mis à faire de la musculation. Il a quelqu'un qui cuisine des choses saines à la maison. Et maintenant, on voit le résultat de son travail, de son intelligence et de cette adaptation par rapport à la vie en NBA.
Messieurs, pour conclure cette page NBA, en un mot, ou en une phrase ou deux, ce que vous aurez retenu de cette année 2010, on va commencer avec vous, Arnaud.
Le flop LeBron James. Le flop LeBron James, le flop en play-off, le flop de sa communication après l'élimination en play-off, le flop de cette décision idiote de quitter Cleveland, incompréhensible, et le flop de ce début de saison avec Miami. En tout cas, jusqu'au mois de novembre, ça a été catastrophique. Et on ne sait toujours pas. Moi, je n'ai pas compris sa décision à l'époque. Je la comprends encore moins aujourd'hui. Je pense que c'est un des plus gros flops individuels d'une superstar depuis des siècles et des siècles.
Armel, ce que vous aurez retenu cette année 2010
La capacité des États-Unis à nous surprendre à l'organisation, par exemple, d'un All-Star Game classique. Je veux dire, un All-Star Game, vous réunissez les meilleurs joueurs et puis terminé, vous faites la fête pendant 3 ou 4 jours. C'est chouette, c'est sympa, on discute avec tout le monde, les familles se retrouvent. Là, totalement différent. On se retrouve dans une arène absolument extraordinaire.
On rappelle, hein, dans le stade des Dallas Cowboys.
108 000 personnes, hallucinant. Donc une fête autour, un super match intéressant, Dwayne Wade en MVP, le match était vraiment bien, chouette match.
Terrain surélevé, on rappelle. Hein,
voilà, ouais, c'était sublime. Et surtout ce public, c'est 108 000 personnes.
C'est écran géant aussi. Hein.
Écran géant de 49 mètres sur 22 mètres exactement, donc un terrain de football.
Record mondial.
Voilà, record mondial, on n'a jamais vu ça. C'était absolument magique, une journée fabuleuse. En tous les cas, pour moi, ça restera un souvenir grandiose d'être à Dallas sur ce All-Star Game.
Georges ?
Pour moi aussi. Et d'ailleurs, je vous rejoins sur le flop LeBron James et sur le All-Star Game, un événement unique. Mais moi, je vais sortir le quator des Lakers parce qu'on parle tout le temps du trio de Miami. Il faut un trio pour être champion. Mais en fait, regardez les Lakers. Kobe, on a dit, il a évolué. Ron Artest, il est devenu un autre homme et un autre joueur. Pau Gasol est devenu le meilleur joueur intérieur au monde, FIBA ou NBA, à tel point que Kobe se repose sur lui dans ce début de saison. Et le quatrième, parce que finalement un quator, c'est mieux qu'un trio,
oui.
Lamar Odom, qui a fait un championnat du monde extraordinaire en Turquie en tant que pivot et qui enchaîne derrière avec un niveau de All-Star dans le début de saison NBA.
Sur RTL Équipe, Carrément Basket, le bilan de l'année.
Vous êtes incroyable, vous me faites les transitions, vous parlez du championnat du monde de Lamar Odom. On va justement revenir sur ces championnats du monde, on va commencer avec les championnats du monde masculins qui s'étaient déroulés en Turquie où justement les États-Unis emmenés par un extraordinaire Kevin Durant ont récupéré leur titre mondial. On va d'abord bien évidemment parler de l'équipe de France qui, on le rappelle, avait été éliminée en quart de finale par la Turquie. Huitième de finale, pardon, par la Turquie, effectivement, avec beaucoup d'absents, qui nous avait fait rêver dès le premier match en battant les champions en titre espagnol, qui après, c'est un petit peu la déconfiture, on a envie de dire, pour les hommes de Vincent Collet. Arnaud, c'est qu'on a vu du très bon, du très moyen et du très mauvais de la part de cette équipe de France, qui, on le rappelle, était amputée des Tony Parker, des Rony Turiaf, des...
Noah,
enfin, qui avait pas mal d'absents, Bobois...
C'est une bonne excuse, mais elle n'est pas suffisante pour expliquer ce flop aussi des Bleus. Je crois qu'il faut appeler un chat un chat. On a eu une préparation. Alors on n'attendait pas grand-chose parce que la préparation avait montré des signes de faiblesse assez importants. Mais là, on mettait effectivement ça sur le compte des absences. Et puis, l'équipe de France a incroyablement attaqué son mondial en dominant l'Espagne. En se mettant largement au niveau du mondial tout de suite, d'entrée, avec une vraie surprise, une vraie révélation, Andrew Albici. Ce résultat devait lancer un peu l'équipe de France. Elle a tenu son rang sur les deux matchs suivants et puis c'est inexplicablement délité contre la Lituanie avant de commettre une vraie bêtise pour ne pas dire plus
irréparable
ou quasiment contre la Nouvelle-Zélande, un flop de plus dans le long livre des flops de l'équipe de France de basket ces dernières années. Voilà, et pour tout ça, pour atterrir dans la gueule du loup, dans les bras de l'ogre turc à domicile, on a pris 25-30 points, enfin il n'y a pas eu de match une fois de plus. Voilà, donc elle a quitté la Turquie par la petite porte alors qu'elle était rentrée par la grande. Elle est sortie par la fenêtre, comme on dit. Donc c'est quand même super décevant une fois de plus parce que, encore une fois, les absences ont bon dos. Évidemment que l'équipe de France, sans Parker, sans Noah, sans
Pietrus,
sans Turiaf, c'est une équipe de France qui ne peut pas espérer grand-chose si ce n'est aller un quart de finale, voire une demi-finale les années où ça veut vraiment rigoler. Mais pour autant, on attendait quand même un autre comportement. C'est sur le comportement de cette équipe qu'on est un peu déçu, même plus que déçu. Et voilà, donc on attend une revanche pour l'année prochaine. Mais ce qui est terrible avec l'équipe de France, c'est qu'on a toujours la bonne excuse de se dire « ce sera pour l'année prochaine, ne vous inquiétez pas ».
Est-ce que, Georges, notre jugement a été faussé par rapport à cette équipe de France après la victoire face à l'Espagne ?
Oui, on attendait plus à partir de cette victoire. Et finalement, c'était un peu un écran de fumée. Mais cette campagne a été un condensé de tout ce qui ne va pas avec la fédération et l'équipe de France depuis 10, 15, 20 ans. C'est-à-dire, on réussit un exploit par-ci, par-là. Mm-hmm. Et après, on manque de sens tactique contre la Nouvelle-Zélande. On manque d'un gueulard comme Jean-Denis Choulet, comme assistant coach pour soutenir un Vincent Collet très compétent, mais pas du tout dans ce registre-là. Ça manque un general manager qu'on réclame depuis des années, que ce soit Rigaudeau ou Monclar, je m'en fous. Mais quelqu'un qui est totalement concentré sur l'environnement de l'équipe de France afin de tirer le maximum de notre potentiel. Et je dirais même en extrapolant, j'ai un peu peur pour l'été prochain, parce que déjà, la compétition va être très relevée dans le championnat d'Europe en Lituanie, et il n'y a pas vraiment de vécu collectif entre toutes ces stars qui nous disent qu'ils vont revenir. Donc, il va falloir rapidement créer l'amalgame.
Armel ?
Oui, tu as raison de souligner que ce sera particulièrement coton en Lituanie parce qu'on passe à 24 équipes, il me semble, pour cette sélection pour la première fois. 24 équipes.
Et surtout, donc, ce sera qualificatif pour les JO, donc tout le monde sera là. Hein.
Et alors, ça, on le sait. Deux billets ouais. directs pour donc, les fois en finale.
24 équipes, je ne vois vraiment pas comment on peut faire, comment on peut se sortir de ce genre de choses.
Il faut viser le tournoi pré-olympique, voilà, qui va peut-être être en France.
Moi, il y a une chose qui m'a surpris bien avant la compétition. C'est le manque d'humilité, mais ça, ça correspond tout à fait à ce qu'est le basket français aujourd'hui. Un manque d'humilité, mais c'est absolument hallucinant. C'est pour ça que ça ne donne pas vraiment envie, d'ailleurs, de travailler avec eux, avec l'équipe de France, avec des dirigeants, avec des entraîneurs. On a l'impression qu'ils sont des donneurs de leçons. Et quand vous entendez un Tony Parker qui dit, 2 mois ou 3 mois avant la compétition, je crois que c'était 2 mois. Oui, ça m'étonnerait que je sois en équipe de France, mais de toute manière, ce n'est pas l'important, c'est dans un an. Parce que là, il y aura la qualification pour les Jeux Olympiques à aller chercher pour Londres. Donc, ce sera le championnat d'Europe en Lituanie qui sera important et non pas le championnat du monde. Franchement, quand vous entendez ça, vous avez l'impression d'avoir affaire à une équipe de France et à des joueurs qui ont tout gagné, qui ont tout raflé, qui ont gagné un peu partout en Europe, des médailles aux Jeux Olympiques, alors que ce sont des absences sur les grandes compétitions. Mais depuis, moi, je n'ai jamais vu briller cette équipe, si ce n'est, oui, voilà, on va rappeler quand même, en Australie, certes, en Australie, ouais. Ils font une médaille d'argent.
Et ensuite, à Belgrade, en 2000.
Et en 2005.
En Australie, c'était pas la génération Parker.
Voilà, ce n'est pas
la génération Rigaudot,
c'est une autre génération. Sierra, voilà, qui s'envole après à travers l'Europe.
La génération
parce que ce sont
Parker,
de très bons joueurs
c'est une
qui
de
quittent.
Ouais.
Et encore, le championnat est d'un très bon niveau en France sur ces années-là, puisque vous avez du Rizaché, vous avez du Sierra, à un très bon niveau avec Rigaudot. Et cette génération-là s'en va ensuite en Europe, un peu comme il y a eu le football, l'effet 98. Exactement la même chose. Et là, quand vous entendez ce type de joueurs, parce qu'ils sont en NBA. Voilà, en l'occurrence, j'ai cité Parker qui dit effectivement, moi, nous, en l'occurrence, ça veut dire ça, on choisit nos compétitions.
Il n'est pas notre seul, d'ailleurs.
Est-ce que ça veut dire
voilà,
qu'on a...
je trouve ça quand même lamentable.
Armel est très virulent, mais il y a du vrai dans ce qu'il dit. Arnaud, plus mesuré, il y a également beaucoup de vrai dans ce qu'il dit. Pour moi, les torts sont partagés entre la fédération, qui ne sait pas rendre l'équipe de France assez séductrice pour les joueurs, et aussi les joueurs qui sont... en fait, le produit d'un système. Et c'est plus un problème de l'ensemble des calendriers surchargés entre la NBA et la FIBA. C'est à eux de faire le ménage. Parce qu'on ne peut pas demander aux joueurs de jouer 100 matchs d'une intensité irréelle en NBA et d'enchaîner derrière, comme dit Arnaud, avec 2 ou 3 mois de vie collective. Et après, vous êtes sur les rotules pour la saison suivante où vous gagnez quand même votre casse-croûte. Parce qu'en équipe de France, ça vous rapporte que la gloire, en fait.
Georges, je vais rester avec vous. On va quand même parler du nouveau champion du monde, les États-Unis, emmenés par, on le disait, un extraterrestre, Kevin Durant, qui auront été irréprochables durant tout le tournoi. Hein. C'est moins qu'on puisse dire.
Oui, et bon, j'enchaîne justement par rapport à le produit d'un système et de cette jeune génération qui veut tout de suite. Et ce qui est génial, c'est-à-dire un peu symbolisé par LeBron James, même s'il n'est plus tout jeune. Mais Kevin Durant, c'est un peu l'anti-LeBron James. C'est le garçon bien élevé, qui ne parle pas trop, qui travaille 10 fois plus que les autres, qui signe son contrat discrètement sans faire beaucoup de bruit, qui reste dans les mêmes équipes, qui reste fidèle à ses coéquipiers, qui est MVP avec le médaille d'or avec Team USA en Turquie. Et tout ça à 21 ans, meilleur marqueur NBA. Non, mais ce type, c'est un extraterrestre. C'est génial.
C'est
quoi.
Vrai, Armelin, que David Stern aime bien trouver des nouveaux icônes pour la Ligue. Et bien là, avec Kevin Durant, il a un
c'est
très
gagné.
Bon
RP,
hein.
Ah oui, je pense qu'il va effectivement marquer la Ligue pour des années et des années. Complètement d'accord avec Georges, c'est l'antithèse totale de LeBron James. C'est son décalque. Et effectivement, il a séduit tous les observateurs cet été à Istanbul parce qu'il a été non seulement très très fort sur le terrain, évidemment qu'il a dominé le jeu FIBA alors qu'il ne le connaissait que très peu finalement, puisque il n'a pas fait partie de l'équipe américaine précédemment. Il avait, je crois, fait une compétition chez les jeunes.
Il était quand même dans les camps d'entraînement depuis plusieurs années.
Il avait fait les camps d'entraînement,
mais il tâtait un peu le jeu FIBA.
C'est vrai, mais encore fallait-il le démontrer en compétition face à des adversaires qui maîtrisent le jeu FIBA.
Vous verrez ce que donnera Noah quand il va arriver dans le jeu FIBA. Vous verrez la différence.
Exactement. Même s'il m'avait agréablement surpris sur les 2-3 matchs qu'il avait joué.
On verra.
Je pense que c'est pas tellement le jeu en lui-même.
Et défense et rebond dans le jeu FIBA, c'est encore plus important que dans le jeu NBA.
Je pense que le danger par rapport à Noah, pour faire une parenthèse, sur le jeu FIBA, c'est pas tellement dans le jeu FIBA, sur le terrain, c'est sûrement en dehors que ça risque de poser, ça risque de coincer de temps en temps. Mais bon, revenons à nos moutons, revenons à Kevin Durant. Donc effectivement, et c'est un joueur qui a séduit tout le monde et qui a dominé. Alors après, on peut se demander comment ça va se passer, parce qu'il y a l'avenir aussi. Et maintenant que Team USA est totalement relancé sur la scène internationale, qu'il a de nouveau trouvé un second souffle, on va dire, après les difficultés que la sélection américaine a connues au début des années 2000, la question c'est de se demander maintenant qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'ils ont tous plus ou moins annoncé quand même ces dernières semaines qu'ils allaient, allaient jouer les Jeux de Londres Alors là, il va falloir
faire.
Alors,
faire le tri.
J'ai des doutes sur le fait que tout le monde sera là. Je pense que Kobe, je suis pas certain qu'il va à 34 ans remettre ça une année. On verra.
Pourquoi pas,
on verra.
Pour un dernier barreau d'honneur.
Mais si Kobe est là, si LeBron James est là, si Kevin Durant est là, si Carmelo Anthony est là,
ça va être fort.
Waouh. Ça va être très fort.
Et c'est surtout l'ambiance qui régnait dans cette équipe. J'ai eu l'occasion d'aller les voir plusieurs fois au practice. Effectivement, il y avait un côté simple d'accès. Pour les rencontrer, les joueurs, ils parlaient librement. Tu parlais tout à l'heure, toi, Georges, de Kevin Durant. Il était hyper accessible à tous les journalistes auprès de... Voilà, c'était un joueur normal, un être, enfin, normal.
Bon, on peut en côtoyer. On a vu ça avec Kobe Bryant durant les Jeux de Pékin.
Je ne peux pas vous dire comment c'était.
Kobe était exemplaire. Il venait voir les matchs des filles déjà.
On le voyait également soit au football.
Il a vécu l'expérience olympique jusqu'au bout et avec beaucoup d'humilité. Et après, sur le terrain, dans les moments décisifs, c'est lui.
Il s'agit de montrer effectivement le meilleur du basket, mais également une image, quelque chose de soft, correct, pas d'arrogance comme on a pu avoir.
Surtout vis-à-vis des arbitres, d'ailleurs.
Il y a des vraies leçons qui ont été tirées des expériences malheureuses des années 2002-2006.
Même en remontant à Toronto, où ils ont été nuls.
Ou à Sydney aussi, où c'était pas joli joli non plus au niveau de l'attitude. Alors ils gagnaient, mais c'était pas parfait. Effectivement, là, il y a eu des leçons tirées incontestablement. Ça doit beaucoup à la personnalité de Colangelo, de Jerry Colangelo, le patron du Team USA, et de Mike Krzyzewski. Ils ont bâti un programme sur la durée auquel pas tout le monde, personne ne croyait ou peu de gens croyaient forcément. Et on s'aperçoit que sur la durée, même avec des équipes qui sont amputées d'un joueur ou de plusieurs, ça marche depuis 2006. Même en 2006, on avait senti les prémices. Ils ont été un peu critiqués parce que forcément, ils ont perdu
ils étaient un peu critiqués.
Mais je pense que cette expérience-là a été fondamentale aussi dans ce processus-là.
Et pour Krzyzewski, qui a compris qu'il fallait connaître les noms des adversaires, par exemple. Ouais. Pour tout le monde, c'était un apprentissage et une adaptation.
Il fallait passer par là.
C'est ça. Et derrière, il y a quand même un homme dont on n'a pas parlé. C'est qui ? C'est David Stern, parce que c'est lui qui a choisi Colangelo. C'est lui qui était le grand décideur derrière tout ce phénomène joueur NBA dans les compétitions FIBA depuis la Dream Team.
Effectivement, le grand patron de la NBA qui lui aussi a quand même une image à vendre et ça passe également par son équipe nationale. On en parlait tout à l'heure pour l'équipe de France. Je vous laisserai ce mot-là, Georges, pour David Stern. Messieurs, dans ce bilan du mondial, qu'est-ce que vous aurez retenu durant ces 15 jours en Turquie ? On va commencer avec vous, Armel.
Salle magnifique. Franchement, j'avais pas. Oui, on était dans une salle en communion intéressante. Ça poussait fort derrière la Turquie.
Le public turc, en tout cas.
Alors le public, on le connaît. À chaque fois, il y a des matchs, effectivement, avec Fenerbahçe ou tous les clubs
Istanbul et tout, c'est très fort, très puissant. Mais là, effectivement, on était dans une vraie salle pour nous, pour travailler. Il y avait une certaine aisance. Quand on allait voir Team USA qui travaillait aussi sur son practice dans sa salle, c'était vraiment très, très bien organisé. C'est pas facile d'organiser une compétition de ce type avec beaucoup d'équipes dans une ville assez quand même cosmopolite, mais très, très chaude. Et donc, c'était intéressant. Moi, j'ai bien aimé ce mondial. J'aime toujours l'ambiance d'un mondial en plus, je trouve ça intéressant.
Arnaud,
c'est parce qu'il y a différent.
Trois choses. Une équipe, bon, hormis Team USA, hein, la Serbie.
Qui a confirmé hein, après son bon
la, la nouvelle Serbie de Dusan Ivković, qui a fait un boulot remarquable depuis deux ans, qu'il a pris la sélection en main, alors qu'elle était en ruine, la sélection serbe. Pas l'oublier, hein, il y a après le désastreux championnat d'Europe à domicile en 2005, la sélection serbe était en ruine, plus personne n'en voulait. Ivković l'a prise en main. Ivković qui a 65-70 ans bientôt et qui est bon, un peu le juste. Georges parlait du parrain David Stern. Bon, Dusan Ivković est le parrain serbe. Deuxième équipe pardon, dont je voulais parler, la Lituanie qui a été incroyable parce qu'on n'attendait pas à ce niveau-là. Et puis troisième chose, un match. Le Argentine-Brésil, qui a été un pur moment de bonheur. C'est un des plus beaux matchs internationaux auxquels j'ai assisté depuis très longtemps.
C'était en quart de finale
Hormis la finale olympique,
c'était en quart de finale. Magnifique.
Un match sublime.
On en oublie les arbitres. Parce que ça joue tellement magnifique.
Un match d'attaque. Formidable quoi, avec des gens qui jouent un basket champagne des deux côtés dans des styles même un peu différents, mais c'était magnifique. Voilà, donc ça c'était un vrai beau souvenir que je voulais remémorer pour cette fin d'année.
Et c'est notamment Luis Scola qui aura fait un très très bon tournoi mondial. Georges,
bon, je vous rejoins évidemment sur tout ce que vous avez dit par rapport à ce mondial, que moi j'ai pris un énorme plaisir à commenter de Paris, mais trois ou quatre matchs par jour pendant la première semaine, et on a vu plein de bons matchs. Mais je vais sortir du lot le tir à 9 mètres de Teodosic pour éliminer l'Espagne, parce que ça représente le succès de la jeune génération serbe. Bon, la qualité un peu fantasque, mais géniale de Teodosic. Et aussi, quelque part, le flop de l'Espagne qui est éliminé beaucoup plus tôt que prévu. Et avec ça, la Turquie en finale avec ce public merveilleux dans une salle fantastique, coaché par un homme qui luttait au jour le jour contre un cancer. Donc là, franchement, preuve de courage. La Turquie n'a jamais été aussi haut. Là aussi, il y avait une sorte d'apothéose, et pas seulement pour les Américains.
Miloš Teodosic, on va en parler dans quelques instants avec la finale de l'Euroleague de basket. Miloš Teodosic qui a perdu la finale avec l'Olympiakos. C'était face au Barcelone de Juan Carlos Navarro. Avant cela, messieurs, on va quand même parler également du mondial féminin. Nos championnes d'Europe en titre qui se présentaient à ce mondial, non pas avec un statut de favorite, parce qu'il y avait quand même les États-Unis et l'Australie qui se dressaient devant elles, mais en tout cas comme un très bon outsider. Et il aura fallu une grande équipe d'Espagne en quart de finale qui a battu l'équipe de France en prolongation. Est-ce qu'on peut parler de déception, Arnaud, cette équipe de France?
Non, dans l'absolu.
Sachant qu'il y avait beaucoup d'absents, pour certains.
Non, dans l'absolu. Oui, voilà, justement, il faut apporter ce bémol-là. C'est vrai qu'elles avaient deux joueuses, voire trois, avec Yakubu. Quasiment trois des meilleures joueuses avec Céline Dumerque. Qui ont déclaré forfait et pas six mois avant, c'est une semaine avant, 15 jours avant.
Sur blessure.
Donc elles sont arrivées là un petit peu KO debout avant même que la compétition commence, parce que ben voilà, un potentiel fortement entamé forcément, donc peu de repères, savoir exactement où elles pouvaient aller. Et puis finalement, ben elles nous ont vraiment fait plaisir sur toute la première partie de la compétition. Et bah oui, après on voit ça comme une déception, parce que c'est surtout la manière dont on les a perdus contre l'Espagne, parce qu'elles sont elles dominent ce match.
Bah c'est ça, quoi, l'histoire.
Elles dominent ce match et elles le perdent toutes seules d'une certaine manière. Ce que vous dites, une grande équipe d'Espagne. Je suis pas convaincu que c'était une grande équipe d'Espagne. Je pense que c'était une grande équipe de France qui est devenue petite malheureusement dans la dernière minute, en perdant un bénéfice de, je sais plus, 6-7 points d'écart facile.
Comme les garçons trop souvent.
Voilà, France-Grèce, c'était France-Grèce 2005 en demi-finale de l'Euro avec les garçons, quoi, un petit peu le même scénario, et donc la même déception derrière. Voilà, donc c'est une déception sur le coup, parce qu'on sent que cette équipe-là pouvait faire un podium malgré les absences. Bon, à l'arrivée, elle fait un championnat du monde tout à fait honorable, et même plus que ça, quoi.
J'ai l'impression, quand on suit cette équipe de France féminine,
on a tout le contraire de ce qui se passe chez les garçons.
Oui, ça c'est bien dit ça.
C'est-à-dire qu'en fait, cette équipe, voilà, Arnaud vient de mentionner, on savait qu'il y avait des absences importantes dans cette équipe. Eh bien, malgré ça, Pierre-Vincent a trouvé un groupe. Il a trouvé, voilà,
des jeunes joueuses qui sont affirmées.
Mais oui, voilà, des jeunes joueuses qui arrivent, qui se battent avec un jeu simple sûrement. En tous les cas, il les fait jouer exactement comme elles ont envie de jouer, sur leur force, sur leur qualité. Elles arrivent toujours à nous faire des résultats. Alors, elles sont éliminées, elles se reprennent derrière toujours, les filles. Alors, c'est quand même extraordinaire.
La grande question, Armel, Georges, Pierre-Vincent, doit-il devenir entraîneur de l'équipe de France masculine?
Je vous rappelle que Pierre-Vincent était entraîneur, de toute façon, de Tony Parker.
Oui, c'est
oui,
déjà.
Tony Parker verrait d'un bon oeil ce choix, je pense.
Voilà. Mais est-ce qu'il en a vraiment envie, Pierre-Vincent, maintenant qu'il a réussi à s'instaurer quand même?
Moi, je suis convaincu qu'il en a terriblement envie, pour en avoir un petit peu discuté avec lui, de travailler avec les garçons. Je ne parle pas forcément de l'équipe de France, mais de travailler avec les garçons, ça, j'en suis quasi convaincu. La vraie question qui se pose, c'est que ça fait quand même quasiment 10 ans maintenant qu'il est dans le secteur féminin, que ce n'est pas tout à fait la même chose. On ne travaille pas avec les filles comme on travaille avec les hommes, notamment en équipe nationale. Donc voilà, la question, c'est
il
de savoir...
Il n'a qu'à être adjoint et il commence en tant qu'adjoint de coller cet été. Ça, c'est une bonne idée, ça.
Et d'ailleurs, Pierre-Vincent a quand même dit, à partir du moment...
Excellente suggestion.
Oui. À partir du moment où on a coaché des filles, on peut coacher n'importe qui.
Il a sûrement raison dans l'absolu. Après, il y a la brutalité, on va dire, du passage entre coacher une saison féminine à Bourges jusqu'au mois de mai, et puis ensuite enchaîner avec le championnat d'Europe féminin qui va être qualificatif pour les mondiaux. On imagine mal ne pas faire ce championnat d'Europe féminin quand même, mais même s'il ne le faisait pas, à la limite, ça laisserait un mois et demi à Pierre-Vincent pour se mettre dans une autre forme de fonctionnement dans la tête avec les hommes, où c'est 100 fois plus compliqué qu'avec les filles, pour ne pas dire 1000 fois plus compliqué. Donc là, ça me paraît difficile.
Georges, pour conclure sur ce mondial féminin, mot quand même des Américaines qui retrouvent leur
titre. Oui, bon, elles ont été tellement dominatrices, on s'y attendait. À la limite, il n'y a pas de surprise, bravo. Mais pour les Françaises, je voudrais dire, elles ont été héroïques. À l'image de Céline Dumerc, le seul bémol, c'est qu'elles sont, et par le passé, c'était pas le cas, mais là, sur ces dernières minutes contre l'Espagne, elles ont affiché les mêmes erreurs et les mêmes faiblesses des garçons, manque de sens tactique, dû à la fatigue, il y a plein d'excuses, parce qu'elles ont enchaîné des performances héroïques. Donc, c'est pas ça qui va gâcher l'image qu'elles ont donnée tout à fait extraordinaire pendant cette compétition.
Quant aux États-Unis, c'est même beaucoup plus fort que chez les hommes, parce que là, c'est de la domination du hachage, littéralement.
C'est pas très intéressant.
Ouais, effectivement. Je sais
la
pas.
La déception de l'Australie, quand même.
La vraie déception, c'est l'Australie. Lauren Jackson est arrivée manifestement sur les rotules à ce championnat du monde.
Encore un problème de calendrier aussi, franchement.
Oui, parce que là, elles cumulent aussi. Enfin, les Américaines aussi. Mais bon,
ce qui est ahurissant, c'est qu'on finit.
Elle a un rôle majeur, quand même, avec les Storms.
Et puis,
c'est 3 jours avant. Les finales WNBA se terminent 3 jours.
Ça, c'est n'importe quoi. Pour être honnête, là.
C'est le problème des calendriers que tu évoquais tout à l'heure aussi.
Moi, j'ai trouvé plus lourd, même.
On est loin du tournoi de Noël qu'on avait par le passé, justement pour rassemblement de l'équipe de France. Et ça manque quelque part.
Plus lourde que, par le passé.
Ouais,
plus lourde que par le passé, Lauren Jackson. Ouais. Je sais pas, probablement, mais pour
autre chose.
Je pense qu'elle était juste sur les rotules complètement.
Elle joue plus d'open, c'est pour ça qu'elle a un peu épaissi.
En tout cas, on aura bien compris que les États-Unis ont retrouvé le toit du monde chez les garçons et chez les filles. Et ce seront des équipes à battre, bien évidemment. À Londres, dans 2 ans, pour les prochains Jeux Olympiques.
RTL L'équipe, avec Frédéric Schweiker. Carrément Basket fait le bilan.
Et Gianluca Basile qui harangue le public espagnol, parce que ça y est, c'est fait. Barcelone est champion de cette Euroleague 2010. On voit Ricky Rubio debout sur le banc. Et Razem Lerbeek à 3 points.
Et oui, rappelez-vous, c'était au mois de mai dernier dans la salle du POPB à Bercy et nous y étions, RTL l'équipe, pour vous faire vivre cette finale de l'Euroleague.
Vous étiez dopé, Fred.
Là, on avait tout donné. Ce jour-là, on avait tout donné avec Guillaume pour cette finale remportée par Barcelone face à l'Olympiakos, 86-68. Une finale qui s'était terminée à sens unique, presque, on avait envie de dire, l'Olympiakos, qui déjà avait été limite lors de la demi-finale face au Partizan Belgrade, qui avait réussi à se qualifier pour cette finale. C'est la consécration de Barcelone, Georges, qui avait réussi une énorme campagne cette année-là.
Oui, c'était déjà un événement fantastique à vivre à Paris, à Bercy, dans une salle chaude. Malheureusement, les médias français n'en ont pas trop parlé. C'est le petit bémol. Mais bon, la finale, confirmation du basket champagne autour de Navarro, de Barcelone. D'ailleurs, dans le foot, ils font pareil. On ne peut qu'adorer ça si on est vraiment un fan de basket d'attaque, quoi. Mm-hmm. En face, grosse déception. Olympiakos se trompe de rythme. Kleiza n'est pas dans le coup. Teodosic, un peu malade, montre son mauvais visage, à gueuler sur les arbitres, à faire n'importe quoi, à s'auto-détruire et amener son équipe dans le trou avec lui, quoi. Donc, je suis un peu dur avec Olympiakos, mais bon, ça a coûté quand même sa place à un coach légendaire, ouais. Yanakis. Hein. Mais bon, jusque-là, Olympiakos avait fait une super saison, mais c'est clair que Barcelone était au-dessus dans la finale.
C'est un autre style de jeu, hein, Barcelone, qui nous a fait rêver. On l'avait vu notamment face à nos équipes françaises, on le voit encore cette année face à Cholet lors du premier tour de l'Euroleague. C'est une formation qui... Quoi qu'on en dise, même s'il y a des moments un petit peu de crise, on rappelle que Barcelone n'est pas champion d'Espagne durant cette année 2010.
Ça, c'était une énorme surprise.
Il y a quand même toujours cette patte catalane dans le basket. Hein.
La crème catalane, vous voulez dire. Il y a en effet une identité, une touche catalane, une espagnole, barcelonaise, pardon. Un peu comme Georges faisait un peu le parallèle avec le football. Je crois qu'en effet, la culture de ce club, ce qu'il représente dans le sport mondial, parce qu'on parle de football et de basket, mais le handball, mais le handball est également dans cette situation-là à produire du jeu, toujours du jeu, comme le foot et comme le basket. C'est effectivement une culture qui est, je crois, forgée chez les plus jeunes dans les centres de formation, dans les camps de terrasse espagnols, dès le plus jeune âge. C'est pas à 25 ans qu'on apprend à jouer le basket du champagne du Barça ou le foot champagne du Barça. C'est à 14, 15 ans. Regardez Xavi, regardez Iniesta au football, regardez Navarro, sans parler de Gasol à l'époque, qui a quand même été formé au Barça, rappelons-le. C'est vraiment très jeune qu'on apprend à jouer ce jeu-là.
Messi, l'Argentin, il est arrivé très jeune.
C'est pas un hasard si le coach du Barça Basket s'appelle Xavi Pascual et qu'il est lui aussi un enfant du club. Donc je crois qu'il y a effectivement une culture qui est unique, probablement en Europe, peut-être aux partisanes Belgrade, qui pourrait se rapprocher un petit peu de cet esprit club très fort.
Mais avec un autre basket.
Avec un autre style de jeu, qui l'emporte par-dessus tout sur le reste, quoi, sur les coachs, sur les joueurs qui passent. C'est le club, c'est la définition du Barça, c'est más que un club, plus qu'un club. Oui, c'est un art de vivre, le Barça. Donc,
comme la ville.
Comme la ville. Ça se retrouve un peu, effectivement, enfin, ça se retrouve même beaucoup sur le terrain.
On sent ceux qui ont fait des voyages beaucoup à Barcelone.
Oh, on adore.
Ça se retrouve, c'est vrai, beaucoup sur le terrain. Et tant mieux, parce que le basket européen a souffert pendant les années 90, un peu aussi au début des années 2000, d'une forme de basket un petit peu destructrice qui à la longue, n'était pas forcément un bon cadeau pour progresser, pour le basket européen, une bonne chose pour progresser. Mmh. Aujourd'hui, on a le sentiment que le basket européen a trouvé une forme de maturité dans ses styles de jeu, dans son basket, avec des équipes qui jouent l'attaque. Barcelone en est... Même Obradovic, Chopana a évolué. Bon, il y a eu le passage aux 24 secondes, il y a eu des évolutions de règlement qui ont favorisé tout ça, hein, attention. Et puis, le brassage des joueurs, de plus en plus, avec des joueurs de différentes nationalités qui amènent des cultures de jeu aussi propres. Donc, c'est assez intéressant de voir que le basket européen, à travers le Barça cette année, a maintenant une identité de jeu d'attaque.
Et c'est pas pour rien qu'on dit que l'Euroleague est le deuxième championnat le plus relevé, juste derrière la NBA. Donc, effectivement, avec cette nouvelle culture du jeu, un homme quand même qui s'est révélé durant ce Final Four, qui est un petit peu renaît de ses cendres après un passage compliqué du côté de Memphis, c'est Juan Carlos Navarro, qui aura fait une très bonne saison d'Euroleague, 21 points et 3 passes décisives lors de la finale pour l'arrière du Barça, qui, on le sent, hein, quand il est chez lui, Il est inarrêtable, simplement, Georges.
Oui, en fait, il symbolise tout ce que Arnaud vient de décrire, cette culture du basket d'attaque, qui d'ailleurs a été repris par la sélection nationale espagnole avec tout le palmarès qu'ils ont réussi ces dernières années. Donc tout ça est une évolution hyper positive pour le basket européen en général, espagnol, Barcelone, et je dirais Navarro, son choix de revenir de la NBA où il aurait pu s'imposer. Hein. Mmh. Il a fait une bonne saison à 10 points par match et quelques gros cartons, même autour de 30 points. Mais ce choix de cœur, ce n'était pas une histoire de...